Vous avez peut-être remarqué ou vous avez peut-être reçu ou vous-même donné des jouets, des objets qui sont électroniques, qui sont connectés et qui peuvent être cibles également de pirates informatiques, qui peuvent vous subtiliser des données, non pas nécessairement directement par le jouet, mais par des bases de données qui peuvent être mal protégées, etc. Ou vous retrouvez avec des virus qui sont extrêmement dommageables pour vos appareils. Tout à l'heure, Steve Waterhouse sera avec nous pour en parler. Avant, on vous parlait la semaine dernière de ces aveux, en quelque sorte, de Apple qui nous parle carrément d'un ralentissement volontaire de ses appareils. La version de la compagnie est celle de vouloir protéger les composantes de l'appareil. Or, plusieurs sont sceptiques de cette façon de faire en disant, ben oui, ralentissent pour une seule et simple chose. C'est que dans le fond, ils veulent qu'on se dise, ça va donc bien mal cette affaire-là, qu'on s'en débarrasse et que l'on achète un nouvel appareil. C'est à peu près ça, finalement, qu'on semble vouloir prouver chez deux, en tout cas, tenants de recours collectifs qui ont été intentés contre la compagnie. Ça dure quoi, maintenant, ces affaires, ces appareils électroniques, appareils électroménagers que vous avez peut-être envie de vous... On est dans la période d'achat, on a parlé du Boxing Day là, pendant une quinzaine de minutes. Est-ce que ça perdure au-delà des 10 ans? Avez-vous l'impression que les appareils que vous achetez aujourd'hui ne sont jamais aussi résistants qu'ils ne l'étaient à l'époque? Fabien Durif est le directeur et cofondateur de l'Observatoire de la consommation responsable. Bonjour, M. Durif.
Oui, bonjour.
L'obsolescence programmée, est-ce que ça existe, premièrement?
C'est la question toujours la plus difficile, mais c'est la question où il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'en fait, il faut le prouver, et c'est la difficulté majeure. On sait qu'il y a des stratégies pour diminuer la durée d'utilisation, mais prouver que dès le départ, dès la fabrication, ça a été fait volontairement pour diminuer la durée de vie d'un objet, c'est difficile à prouver.
Est-ce que l'aveu d'Apple pour vous, concernant le ralentissement de leur appareil, est-ce que vous achetez leur théorie sur la protection des composantes de l'appareil?
Alors, c'est sûr qu'il y a un aveu, entre guillemets, pour, j'irais, qui est vraiment lié à la batterie. J'irais que c'est véritablement une... Alors, il y en a qui pourraient parler d'obsolescence programmée. J'irais qu'on est à la limite, parce que il y a vraiment une problématique, j'irais, de communication, déjà. Il y a vraiment une erreur qui a été faite par Apple. Déjà, ça a été annoncé beaucoup trop tard, c'est fait de manière brutale, et ils auraient pu éviter ces erreurs de batterie. Dès le départ, les tests sont faits, on sait que les batteries se dégradent de manière naturelle dans le temps, c'est prévisible, on peut le tester. Donc, il y a une problématique majeure chez Apple là-dessus, ça a mal été communiqué, mal été expliqué, et c'est ce qui peut expliquer que là, on se retrouve dans une problématique majeure où on pourrait penser qu'il y a une stratégie qui a été faite pour faire en sorte qu'on renouvelle plus rapidement son cellulaire et son iPhone, bien entendu.
On dit au Canada, puis les chiffres sont hallucinants, 140 000 tonnes de matériel informatique, électronique, qui donne 4 750 tonnes de plomb chaque année vers les sites d'enfouissement. C'est énorme.
Ben, c'est un problème majeur. Si on prend le cas du cellulaire, c'est un des appareils qui est le plus renouvelé par les consommateurs. On est dans à peu près toutes les études entre à peu près 16 mois et 24 mois, à peu près la durée de possession d'un cellulaire, alors que les durées de vie sont estimées à peu près entre 5 et 7 ans. Donc le consommateur renouvelle rapidement, la plupart du temps par choix volontaire, et on le sait aussi par certaines tactiques qui sont utilisées par les marques. Mais c'est évident qu'il y a des impacts environnementaux, il y a des impacts sociaux qu'il ne faut pas oublier, bien entendu. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas toujours blâmer le consommateur. Il a envie de changement, il a envie de nouveauté, et ce qui fait en sorte qu'il renouvelle assez rapidement. Et dans le cas d'Apple, on le sait, c'est une question des batteries qui est majeure. Les batteries se réduisent assez rapidement. Et dans ce cas-ci, il pourrait aussi y avoir des programmes de rappel de batterie. Apple l'a déjà fait pour les iPhone 6, mais là, on le voit, c'est une petite problématique qui n'est pas réparée par Apple.
Vous avez déjà dit dans le passé qu'il faut faciliter les programmes de remise en état de marche ou étendre le marché d'occasion. On a vu par le déverrouillage des appareils annoncé il n'y a pas si longtemps qu'il doit se faire gratuitement que normalement, ça devrait aider ce phénomène-là, à tout le moins.
C'est complètement évident et de toute façon, on le voit parce que les cellulaires, sur le marché d'occasion, c'était un appareil qui, au départ, était très peu, revendu, rééchangé. On voit depuis 3-4 ans une progression assez constante. Donc, ça devient un objet qui est de plus en plus échangé, acheté, revendu. Donc, il y a vraiment une volonté chez les consommateurs de, oui, ils veulent la nouveauté, mais de temps en temps, ils sont prêts à attendre des fois quelques mois que ça arrive sur le marché de seconde main. Donc, ils sont conscients du prix qui est quand même assez élevé. On le voit avec l'iPhone 10 qui vient de sortir. Donc, le consommateur quand même comprend, mais c'est sûr qu'il y a quand même un renouvellement qui se fait de manière extrêmement rapide. Ça reste toujours la problématique majeure.
Quand on parle d'obsolescence programmée, est-ce que pour vous, ça fait partie de ce phénomène que lorsqu'on prend, je vais prendre peut-être des objets un peu plus gros, que ce soit des appareils électroménagers et compagnie, qu'à peu près personne ne veut toucher à ça, tu sais, que les appareils soient très difficilement réparables et que finalement, ben, l'option, c'est de dire, au lieu de mettre 600-700 $ pour réparer le réfrigérateur, ben, je vais en mettre 100 de plus puis je vais en acheter un flambant neuf.
C'est la problématique majeure, hein. C'est la réparation. Il y a des études qui sont faites, notamment en Europe, hein, qui ont été faites en France. C'est presque un appareil sur deux qui tombe en panne, petit électroménager, gros électroménager, qui n'est pas réparé. Donc, où le consommateur ne pense même pas vouloir réparer, alors que le réseau existe. Mais je dirais, là aussi, ne pas blâmer le consommateur. Je dirais, il faut le temps, il faut la compréhension, il faut savoir tout ce qui existe aussi. Et il y a le prix. Souvent, le prix, le consommateur va se retrouver avec des prix élevés, le temps qui est mis pour obtenir les pièces de réparation. Et souvent, mais on va se retrouver sur le marché avec une offre qui est souvent moins chère que le coût de la réparation et que le temps qu'il faut attendre. Donc, ben, on est amené, en tant que consommateur, à renouveler rapidement, et c'est la problématique du phénomène.
Et ça, c'est le coût d'achat au départ qui rend ça plus... Je parlais, entre autres, ça n'a peut-être aucun rapport, mais en plomberie, des gens me disaient, certaines pièces qui sont manufacturées en Asie, qui l'étaient en Amérique auparavant, c'est des pièces qui sont beaucoup moins chères à l'achat, évidemment. Les gens vont se tourner vers ça, mais puisque on les paye moins cher au départ, c'est à peu près impossible à réparer. Donc, quand c'est terminé, puis on doit tout sortir de là. Ça c'est un problème, là.
Ben, c'est la problématique de le démonter complètement, savoir comment on démonte, trouver les bonnes pièces, est-ce que les bonnes pièces existent, où est-ce qu'elles sont fabriquées. Donc toute la traçabilité, la chaîne, finalement, devient de plus en plus difficile. Et c'est là que le consommateur souvent se retrouve perdu et il va chez son détaillant qui va souvent lui proposer directement le remplacement au lieu du processus de réparation. Donc on est face à ce phénomène-là et il y a quelques marques internationales, si vous retournez vers l'Europe, des marques comme Seb par exemple, qui essayent de lutter puis qui proposent aux consommateurs des garanties plus élevées, des processus de réparation, on reprend le produit. Donc il y a quand même, j'irais aujourd'hui, un marché qui essaye de répondre finalement à cette demande et tout le phénomène de l'économie collaborative avec les réparotons, donc tout ça qui commence à exister de plus en plus.
En tout cas, à voir, parce que je discutais avec notre recherchiste ici, François Arnois, il dit « j'ai acheté 3 laveuses en 16 ans », ce qui est assez anormal, faut le dire, là.
Ben, c'est sûr qu'on se retrouve en général avec les gros électroménagers. Normalement, les durées d'utilisation tournent entre 7 à 10 ans et les durées de vie sont à peu près équivalentes. Mais c'est sûr que le marché évolue, les pannes sont de plus en plus nouvelles parce qu'il y a de plus en plus aussi d'électronique dans ces appareils-là. Donc ça devient compliqué, je dirais, pour le consommateur et pour le marché.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Durif.
Merci.
Au revoir. Fabien Durif est directeur et cofondateur de l'Observatoire, dis-je, de la consommation responsable. Dans un instant, on discutera avec Steve Waterhouse. Avez-vous reçu ou votre enfant a-t-il reçu des jouets qui se connectent, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser avec Internet, prendre certaines données, etc. Sont-ils à risque? Comment les protéger, etc.? Réponse dans 3 minutes.